en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Portera sur l'infanterie et je parlerai particulièrement de la naissance de l'infanterie vraiment moderne qui pour moi a eu lieu pendant la Grande Guerre. Très concrètement, un sergent de 1918 ou le téléporté à l'époque actuelle, un sergent chef de groupe d'infanterie ou le téléporté à l'époque actuelle, dans un régiment d'infanterie français. Il ne sera pas complètement perdu, quoi. Il comprendra à peu près comment ça fonctionne. Le même sergent de 1918, vous le ramenez en 1914, là, il sera complètement perdu. Le combat a complètement changé. Et c'est même la transformation peut-être la plus rapide de l'histoire, enfin au moins en termes de combat d'infanterie, en l'espace de 3-4 ans, on a une mutation profonde, on a la création de l'infanterie moderne actuelle, qui est peut-être en train de se transformer aussi maintenant, mais très, très, très lentement, je dirais. Beaucoup plus lentement, en tout cas, qu'à l'époque. Alors, pour introduire, je vais citer justement un auteur de l'époque, Joseph Bédier, qui écrit, en 1919, décrit une scène qu'il a vue en l'hiver 1917, dans une école d'infanterie, d'une école de la 4e armée. Du général Gouraud. Voilà. Une saisissante leçon de choses nous fut proposée. Une compagnie, armée seulement du fusil, comme au début de la guerre, et soutenue à la faveur d'une convention complaisante par une section de mitrailleuses, se déploya en ligne de tirailleurs et pendant 10 minutes exécuta des feux à la façon de 1914. Puis, 10 minutes d'après, une autre compagnie travailla à son tour, mais à la façon de 1917, c'est-à-dire que formant en deux vagues d'assaut, ces quatre sections, elle mit en œuvre à la fois la mousqueterie de ses voltigeurs, les grenades de ses grenadiers, les feux de ses fusiliers mitrailleurs et les rafales des mitrailleuses et la canonnade des obusiers d'accompagnement. Pour lui, comme pour la vue, le contraste a paru formidable. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On a, en l'espace de quelques années, une transformation telle qu'on peut la qualifier de révolution dans les affaires de l'infanterie. Je vais essayer de voir quels sont les facteurs, les éléments qui ont permis cette transformation. Alors le premier de ces facteurs, ça peut paraître paradoxal, mais ce sont les pertes. C'est-à-dire que les pertes de l'infanterie française, pas seulement française bien sûr, mais particulièrement française, sont évidemment très importantes dans le conflit. La 70e division d'infanterie, par exemple, qui a un effectif moyen en 1914 de 8000 fantassins, donc fantassins purs dans la division, on a perdu 17 000, toutes causes confondues, perdu 17 000 fantassins dans les 17 premiers mois de la guerre. Et on perd encore 10 000 pendant le reste de la guerre. Donc cette division, qui ne fait pas partie des divisions les plus engagées pourtant, a perdu deux fois son effectif d'infanterie à la fin de 1915, simplement. Dans une autre division, la 13e division d'infanterie, chaque compagnie d'infanterie compte en moyenne 700 pertes, donc tués, blessés, disparus, pour les seuls combats de l'année 1915, pour un effectif théorique de 250 dans une compagnie. Et cette hécatombe a finalement un certain nombre de conséquences, d'abord négatives, bien sûr, mais aussi des conséquences positives, dans la mesure où ce sera une incitation à l'innovation. Alors les conséquences négatives, elles sont relativement simples, c'est-à-dire que là, on a rapidement, surtout à partir de la fin de 1915, une forme de traumatisme collectif, je dirais. Il y a une fragilisation considérable du moral de l'infanterie. L'infanterie devient fragile psychologiquement et jusqu'à finir par craquer en 1917 à la suite d'une série de frustrations. C'est-à-dire que l'accumulation de batailles qui sont toutes censées être des grandes batailles décisives, l'offensive de Champagne en octobre 1915, la bataille de la Somme, l'offensive Nivelles sur l'Aisne, à chaque fois c'est des batailles décisives, à chaque fois ce sont des graves échecs, et puis finalement tout ça finit par craquer, et à l'occasion des ce qu'on appelle les mutineries, qui sont en réalité plutôt des grèves plutôt que des mutineries, ce sont des grèves de professionnels qui disent, bon, écoutez, maintenant, ça suffit. On ne conteste absolument pas la guerre, mais il est peut-être temps de nous employer de manière un peu plus intelligente, je dirais. Ce traumatisme a pour effet rendre, et c'est quelque chose qu'on constate effectivement dans les écrits, de rendre méfiant la troupe vis-à-vis du commandement et vis-à-vis notamment de la doctrine, de tout ce qui descend. C'est-à-dire qu'il y a, au fur et à mesure de l'avancée dans la guerre, au fur et à mesure des échecs, il y a une méfiance de plus en plus grande vis-à-vis des directives qui viennent du sommet. Autrement dit, la doctrine est de moins en moins appliquée par l'infanterie, qui non seulement se fragilise, mais également se rigidifie d'une certaine façon. Et ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que de cette fragilisation du moral, c'est que de plus en plus, l'infanterie va dépendre de l'artillerie pour avancer et pour combattre, d'une manière générale. Le colonel Lucas, qui est un des grands des théoriciens de la doctrine française de l'époque, écrit « L'infanterie, éprouvée par ses pertes, ses attaques frustrantes, apprend, et on lui répète dans les instructions, qu'elle ne peut plus rien faire sans l'artillerie. Il n'en faut pas davantage pour diminuer dans cette arme déjà si éprouvée la confiance en soi, l'élan, le mordant, l'esprit offensif, si nécessaire pourtant dans le combat. Et pendant 2 ans, donc toujours le cas, l'infanterie a tendance à ne plus marcher qu'à la remorque des projectiles d'artillerie. » Et donc cette perte de confiance, restaurer la confiance, ce sera l'objectif premier du général Pétain, qui, lorsqu'il arrive au commandement en mai 1917, commandement suprême, et cela passe par un certain nombre de choses, un changement de la doctrine, notamment, qui renonce à cette idée de bataille décisive aussi, au passage, et surtout, ça passe dans l'immédiat par des victoires. C'est-à-dire que le général Pétain va commencer par donner des victoires aux Français. Donc ce sont des batailles très particulières. C'est la nouvelle bataille de Verdun au mois d'août. C'est surtout la bataille de la Malmaison en octobre, où, avec des moyens par la méthode, par la planification, par l'organisation, par des moyens d'appui absolument considérables, qui ne seront dépassés, le tir d'artillerie de Français de la Malmaison ne sera dépassé, je le rappelle, que par les Soviétiques, à la bataille d'Orel en 1943, puisque là on a le record en France. Mais voilà, l'idée étant de donner des victoires à coup sûr aux Français, de restaurer le moral, de lui donner à nouveau confiance dans ses capacités. En même temps, ces pertes ont pour effet d'inciter aux innovations. Un peu de la même façon que les pertes humaines, enfin les pertes de la peste noire ont considérablement obligé à l'abolition du servage complètement pendant le Moyen-Âge et l'adoption de nouvelles techniques comme les moulins à vent et autres. Ben là, de la même façon, les pertes de l'infanterie incitent, finalement, c'est malheureux, mais incitent à innover. À partir de la fin de 1915, le fantassin français devient quelqu'un de rare et qu'il faut économiser. Les structures changent. La compagnie d'infanterie qui reflète cette évolution. La compagnie d'infanterie théorique, elle est à 250 hommes au début de la guerre. Elle passe en théorie en 194, pardon, en 1916, et finalement 175 hommes à la fin de la guerre, théorique. En réalité, généralement, c'est beaucoup moins. Et surtout, on est obligé, là aussi, de changer de méthode. Les divisions d'infanterie passent à 3 régiments au lieu de 2 brigades de 2 régiments. Et puis on s'aperçoit que cette réforme est finalement plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que cette réduction d'effectifs apporte une plus grande souplesse dans la capacité de manœuvre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le commandant Laure, futur général, décrit à ce moment-là « Nous sommes quelques-uns à nous réjouir de la décision prise, frappés comme nous l'avons été dès le début de la guerre, des pertes subies par une infanterie surabondante. » Que de combats livrés et poursuivis à coups d'hommes, là où seul le matériel eût dû trouver à s'employer. Que d'inutiles obstinations à renforcer les dispositifs d'assaut auxquels on eût renoncé si les réserves en bataillon n'avaient pas été si souvent trop bien alimentées. Il nous semble donc qu'une tactique d'économie de fantassin nous sera imposée et que, fidèles aux observations faites tant à Verdun que sur la Somme, Nous avons l'obligation de conduire la bataille en agençant au mieux les différentes armes d'après leur aptitude propre. C'est ce qu'on appellera manœuvrer. Donc voilà, incitation à changer de méthode, incitation à coopérer avec les autres armes pour les être plus efficaces. Le fait d'avoir 3 régiments, par exemple, dans une division permet de mieux se combiner avec l'artillerie, les 3 groupes d'artillerie de la division. Les brigadiers, les généraux de brigade qui deviennent inutiles, sont remplacés par un commandant de l'infanterie divisionnaire qui est un peu un élément détaché, qui peut recevoir des missions particulières. De la même façon, on supprime une 4e compagnie dans chaque bataillon. Donc les bataillons aussi deviennent ternaires. On les remplace par des compagnies de mitrailleuses. Donc on augmente la puissance de feu et en même temps on réduit les effectifs du bataillon. Et avec les économies d'effectifs, on crée un centre d'instruction divisionnaire en 1916, qui est aussi une grande innovation parce que ce dépôt, jusque-là, je rappelle que on n'avait pas prévu que la guerre durerait, donc on alimente en hommes depuis directement les dépôts de l'arrière en France, et on a des individus qui viennent directement sur la ligne de front, sans être forcément complètement adaptés au combat, et sans être vraiment préparés. Ce centre d'instruction divisionnaire, qui se place toujours à l'arrière de la division, c'est un dépôt, c'est un volant d'effectifs, un foyer d'instruction, où tous les nouveaux arrivent, stationnent, prennent contact avec les anciens, il y a un amalgame qui se fait, tous les permissionnaires passent par là, tous les blessés passent par là aussi, et c'est le centre de fusion, de préparation des nouveaux, et ça s'avère être une innovation tout à fait remarquable. Autre problème, en revanche, posé par les pertes, en termes français, en termes modernes, on parle de turnover, c'est ce changement permanent. Les unités sont en sous-effectif chronique, mutation, décès, convalescence, stage, permission, de plus en plus de stages aussi de formation. Ce sera un des problèmes. La guerre évolue, j'y viendrai, les techniques évoluent, on a de nouveaux équipements, tout ça, il faut apprendre à s'en servir. Et pour apprendre à s'en servir, on est obligé on reconstitue à l'arrière du front toute une structure d'instruction, de centre d'entraînement, de stage. Et donc, s'ajoute aux pertes humaines, s'ajoute le fait que vous avez beaucoup de gens qui sont obligés de partir en stage, de formation en permanence. Et tout ça, là aussi, rend les unités fragiles. C'est-à-dire que très concrètement, on a une difficulté à capitaliser sur l'infanterie française en particulier, contrairement aux autres armes, qui ont moins de pertes, a du mal à capitaliser sur une mémoire tactique. Il y a trop de changements pour s'appuyer sur des anciens qui sont sur une mémoire. On verra le problème que ça pose lorsqu'on reviendra à la guerre de mouvement que tout le monde aura oublié. La tentation, pour remédier à ça très très rapidement à partir de la fin 1915, on décide aussi, autre innovation, de changer la manière d'employer les forces et de réduire les forces en première ligne et de mettre en place un système de 3-8, d'une certaine façon, où les unités tournent d'un front difficile, zone de combat, repos, zone calme, zone de combat, repos, zone calme, zone de combat. Et ça aussi, ce système est fait pour soulager les hommes, réduire la pression sur eux et permettre éventuellement à cette période de repos d'assimiler le changement, d'assimiler toutes les innovations qui ont lieu pendant la guerre. Cette gestion du changement, c'est quelque chose qui évidemment n'avait pas du tout été prévu avant la guerre, mais qui devient un paramètre majeur du conflit. Il faut apprendre à gérer les innovations. Et ça ne passe que par une restructuration des cycles de combat. La tentation est forte aussi à ce moment-là, devant la fragilisation de l'infanterie, de concentrer les efforts et les moyens sur quelques unités de choc, quelques unités d'élite, extension des corps francs et des sections spéciales qui se forment spontanément à partir de 1915, à partir de la rigidification du front, et à l'imitation de ce que font les Allemands, qui, eux, vont aller très loin dans cette voie et même jusqu'à créer 2 armées. Le débat se pose clairement en France en 1917 et, après consultation, Pétain refuse finalement ce qu'il appelle les divisions de gladiateurs et il condamne même l'emploi d'unités spéciales, de détachements d'élite. Il considère que l'armée française est trop fragile pour se permettre une division en deux armées, une armée d'élite et une armée un peu plus pauvre. Parce que pour lui, cette deuxième armée serait particulièrement vulnérable. Et donc, il refuse ça. Il préfère avoir joué sur l'homogénéité des structures, contrairement aux Allemands. Et cela correspond aussi à une autre conception, qui est le début de l'art opératif, je pense, qui consiste simplement à non pas chercher la bataille décisive comme vont le faire. Idée à laquelle les Allemands restent fidèles, mais à multiplier les batailles, multiplier les combats et espérer une décision à partir de cette multiplication des batailles et au lieu d'une seule. Et pour ça, on a besoin de tourner, on a besoin d'unités qui soient homogènes, qui soient capables, comme à Verdun, il applique en grand le système de Verdun, de rotation d'unités qui sont identiques, que l'on renforce éventuellement. Donc refus de l'infanterie d'élite. Deuxième élément important, après ces... Après ce poids des pertes, c'est bien évidemment c'est le facteur technique et l'apparition d'innovations aussi techniques qui sont généralement qu'on peut à peu près en trois phases en ce qui concerne l'infanterie. D'abord, il s'agit de réponses très ponctuelles aux problèmes qui se posent, aux problèmes nouveaux. L'apparition des tranchées, c'est un problème tactique complètement nouveau que personne n'a vraiment anticipé, qui est un phénomène spontané. C'est-à-dire que très concrètement, dans les zones les plus calmes du front, dès la fin de 1914, on commence à creuser, parce qu'on s'aperçoit que c'est la seule façon de pas mourir, tout simplement, de faire face au feu moderne. Donc on commence à creuser des trous individuels, puis on relie les trous, puis ça constitue des lignes de tranchées, puis les lignes de tranchées deviennent des positions, et ainsi de suite. Il y a une cristallisation progressive du front qui se fait, et qui est encore une fois un phénomène spontané qui est venu par en bas. Et le premier problème qui se pose, c'est évidemment c'est de s'adapter à cette guerre de tranchées. Dans un premier temps, on a des adaptations très très spontanées, le changement de tenue, l'apparition du casque d'acier. Les Français, d'une manière générale, sont les premiers à adopter un casque d'acier, le changement de la tenue. Et puis, dans une première phase, l'infanterie française commence par imiter le génie, qui est en fait l'arme la plus adaptée au nouveau combat. Et donc, on commence à apprendre les méthodes du génie et l'armement du génie, notamment la grenade. La grenade, c'est l'arme des tranchées, l'arme première des tranchées, et on commence à l'utiliser massivement dès 1915. Ça, ce sont les premières réponses. À la fin à cette période, l'infanterie reste tournée vers l'offensive, et d'autant plus d'ailleurs que le territoire français est occupé. Et son problème tactique immédiat, très, très rapidement, c'est de percer la ligne de défense allemande, qui se révèle beaucoup plus résistante que prévu, qu'on l'avait imaginé. Donc, dans le premier temps, on mise sur... on reste sur les mêmes valeurs qu'en 1914, on mise sur l'ardeur, l'obstination, mais on s'aperçoit que même associé à un appui croissant de l'artillerie et une organisation de plus en plus poussée, le cran, le courage ne peut pas tout faire. La 13e division d'infanterie, elle perd 8 000 hommes. Calculé qu'elle perdait 8 000 hommes par kilomètre gagné en 1915. Donc on s'aperçoit quand même rapidement que cette voie est sans issue. Et la vraie mutation commence en 1916, où là, effectivement, interviennent les changements de structure que j'ai évoqués, et une deuxième génération de matériel qui est essentiellement destinée à porter le feu pour neutraliser les mitrailleuses allemandes. Le problème tactique, c'est ça, en réalité. Le problème tactique des tranchées, c'est comment on arrive à neutraliser les mitrailleuses ennemies. D'abord, on commence à vouloir saturer les mitrailleuses ennemies par ses propres mitrailleuses. On passe ainsi de 5000 pièces en août 14 à 11000 pièces au 1er janvier 1916. Le problème des mitrailleuses, c'est que ce sont des pièces qui sont lourdes, qui sont lentes à mettre en batterie, dans l'emploi relativement délicat à l'époque. Et surtout, donc, elles sont beaucoup plus efficaces en défense qu'en attaque. Donc, en réalité, ce renforcement, cette multiplication du nombre des mitrailleuses de part et d'autre a pour effet de renforcer encore la défense au lieu de renforcer les capacités d'attaque. Et donc, pour l'effort français, portera sur la capacité, pas seulement français, portera sur la capacité des fantassins à avoir l'équivalent d'une mitrailleuse, mais légère. Et donc, ce sera le fusil mitrailleur, le Choucha, que l'on va adopter, le premier fusil mitrailleur moderne, très imparfait. On notera au passage que on s'appuie dans toutes ces innovations, on s'appuie sur les prototypes d'avant-guerre. Il n'y aura que très peu de véritables innovations techniques pendant la guerre. Les chars sont pratiquement des rares exemples. Tout le reste, on s'appuie sur des prototypes qui existaient avant-guerre qu'on développe. Alors quand on a des bons prototypes, ça marche bien, et lorsqu'on a des choses qui sont assez médiocres, on le paye par la suite. Et donc là, on est premier effectivement à se doter du fusil mitrailleur Choucha, mais c'est un fusil qui est assez médiocre, qui est très peu fiable, et qui va poser un certain nombre de problèmes. Et donc, dans un premier temps, voilà, tant qu'on n'a pas cet armement individuel, on est, comme je l'évoquais, on est obligé de se lier à l'artillerie. Dans une première phase, on coordonne ces moyens à l'artillerie, on met en place les barrages roulants, des choses très sophistiquées. Et puis, rapidement, l'infanterie, à partir de 1916, développe sa propre artillerie, cherche à être autonome dans son combat, développe sa propre artillerie. On met en place des canons de 37 mm, donc une artillerie de relativement petit calibre, qui est surtout à tir direct, qui est capable d'envoyer un obus à jusqu'à 2000 mètres. On met en place des lance-grenades, c'est l'obus Vivien-Bessières qui peut tirer jusqu'à 200 mètres, et on met en place des mortiers, les premiers mortiers Brandt et Stokes, qui peuvent, des mortiers de 80 mm, qui peuvent frapper jusqu'à 2000 mètres. On expérimente aussi des canons de 75 en accompagnement, mais ça ne marche pas très bien, jusqu'à ce qu'arrive la chenille. Donc ça, c'est la deuxième génération technique, c'est celle qui est mise en œuvre à Verdun et surtout sur la Somme, qui est censée donner plus de capacité à l'infanterie. La troisième phase, jusqu'à un certain nombre de limites, la troisième phase sera le char d'assaut. Troisième génération d'équipement de l'infanterie, le char d'assaut. Char d'assaut qui est artillerie spéciale au départ, mais qui est sous la tutelle de l'artillerie par hasard, en réalité. Hein, c'est parce que c'est un artilleur qui l'invente. Mais sinon, en réalité, c'est une arme, à ce moment-là, c'est une arme d'infanterie. C'est une arme qui est au départ dans l'esprit d'Étienne, d'ailleurs, qui était là pour transporter des fantassins. Ce sera bien ce que je disais tout à l'heure, comme on n'a pas le temps de développer un véhicule de transport d'infanterie spécifique, on s'appuie sur les prototypes qui sont montés à ce moment-là par Schneider, puis Saint-Chamond, et donc ce sont des véhicules de percée, très lents. Je rappelle qu'à ce moment-là, on commande les chars à pied. Les capitaines qui commandent les chars sont à pied, ils vont d'un char à l'autre pour donner des ordres, et ils se déplacent à 4 km/h. Donc première génération, très imparfaite, et surtout, deuxième génération, le FT-17, qui, pour le coup, est un véritable engin d'infanterie et qui redonne une capacité, un punch, qui est réparti dans les unités d'infanterie et qui redonne une capacité offensive à l'infanterie. D'ailleurs, ces unités ne sont plus appelées des batteries, mais ce sont des compagnies. Et le 1er mars 1919, les chars d'assaut sont rattachés à l'infanterie. Une innovation majeure à ce moment-là, qui combine les éléments techniques, les éléments culturels, les éléments de structure, c'est l'invention du groupe de combat. C'est une innovation majeure. Elle a lieu officiellement en 1917. Les premières expérimentations datent de 1916. Et le groupe de combat invente en 1917. Une note. Je rappelle qu'au début de la guerre, la norme du combat d'infanterie, c'est le combat en tirailleur à un pas d'intervalle. Il faut attendre 1916 pour qu'on dise qu'on va peut-être passer à 4 ou 5 pas d'intervalle. C'est-à-dire qu'il faut 2 ans de guerre pour obtenir que les formations d'attaque, reconnues trop denses dès le premier combat, soient enfin diluées. C'est un saut qualitatif très important, mais surtout, le saut qualitatif viendra lorsque on conviendra que des sous-officiers, des jeunes sous-officiers, des jeunes sergents, d'une vingtaine d'années, sont capables de prendre des décisions tactiques. Et à partir de là, autour d'eux, on va créer la demi-section, c'est-à-dire qu'on va créer une cellule autonome d'une quinzaine d'hommes qui portera toutes les armes d'infanterie, qui sera centré autour des fusils mitrailleurs. Mais à l'intérieur de ce groupe de combat, vous avez des lance-grenades, vous avez des grenadiers, vous avez des fusiliers. Je cite le commandant Laure qui décrit le fonctionnement de cette nouvelle cellule. Comme noyau des armes automatiques, susceptibles d'entrer rapidement en action pour débiter une grande quantité de balles, et ce seront les fusils mitrailleurs servis par les fusiliers, autour d'eux des grenadiers pour tenir l'adversaire à distance avec leurs grenades à main ou à fusil. Enfin, voltigeant autour, fouillant les couverts, toujours prêts à utiliser soit leurs fusils, soit leurs baïonnettes, soit des grenades, les grenadiers voltigeurs agiles et alertes. Et là, c'est une vraie transformation, c'est-à-dire que l'homme baïonnette, qui était symbole du fantassin aligné, disparaît à la place, on a des cellules autonomes. Je rappelle que depuis le milieu du XIXe siècle, en particulier depuis l'apparition des fusils pratiques, des fusils à rayer, la généralisation des fusils à rayer, les fusils à sarment par culasse, et puis l'apparition des poudres blanches, on est passé d'une distance moyenne de combat à l'époque napoléonienne dans l'infanterie de 100 mètres à 400 mètres d'un seul coup. Et donc c'est cette distance à franchir qui, depuis plus de 50 ans, pose des problèmes considérables à tous les théoriciens de l'infanterie. Et avec deux écoles de pensée, une qui dit il faut se disperser au maximum, c'est l'école des chasseurs à pied, mais on s'aperçoit que les officiers perdent le contrôle des hommes et que finalement ça aboutit à rien de décisif. Et puis une autre école, ça c'est l'école du feu donc, et une autre école du choc qui dit tant pis, on reste groupé et on fonce. Il y a des pertes, mais au bout du compte, on arrive sur la ligne et on a des résultats. Et finalement, le groupe de combat, c'est la synthèse des deux, c'est-à-dire qu'on a une petite cellule groupée et à la fois autonome et qui peut évoluer dans un environnement extrêmement violent. Mais la clé de tout ça, outre les innovations techniques que j'ai évoquées, c'est ce changement de perception vis-à-vis du sous-officier. C'est-à-dire que jusque-là, le sous-officier, c'est quelqu'un qui encadre, qui est là pour vérifier que les ordres sont appliqués, qui vérifie que les alignements sont bien suivis, qui regarde que tout le monde fasse son travail, mais il ne prend pas de décision tactique. Là, on a des gens qui sont tout seuls avec leur groupe de combat, et qui, le groupe de combat, ce sera l'appellation en réalité à partir de 1919, qui vont prendre des décisions autonomes, et ça, c'est un vrai changement. Deuxième changement, d'ailleurs, on s'aperçoit que ces groupes intégrés sont beaucoup plus résistants psychologiquement que les alignements d'hommes de 1914. Pourquoi ? Parce que ces hommes sont interdépendants. C'est-à-dire que quand il y en a un qui ne fait pas son travail, eh bien, ça met en cause la sécurité de tous. Et donc, in fine, sa propre sécurité à lui. Donc, tout le monde est incité à se donner à fond dans une cellule interdépendante. Ce qui n'est pas forcément le cas en 1914, lorsque vous avez des hommes alignés, lorsqu'il y en a un qui se met un peu en rentrée, qui fait pas tellement, qui est un peu plus prudent que les autres, on va dire, ça change pas grand-chose à l'ensemble du combat de la section. Et donc, il y a une incitation, finalement, pour tous, à prendre un petit peu moins de risques. Donc ça aussi, cet élément psychologique qui est dérivé de cette nouvelle organisation, va avoir une importance considérable. Et donc voilà, l'infanterie française se forme ainsi, dans ses structures, dans sa culture, en 1917. Le bataillon d'infanterie, par exemple, c'est une unité qui a maintenant trois compagnies simplement d'infanterie, mais avec une compagnie mitrailleuse, grosse puissance de feu, à 8 pièces, qui devient d'ailleurs une compagnie d'appui avec l'arrivée du canon de 37 mm, des deux mortiers de 81. Un bataillon d'infanterie est capable, en 1917, est capable de projeter 4 tonnes de munitions en 5 minutes, soit 7 fois plus de munitions par homme qu'en 1914. Alors, cette infanterie industrielle qui apparaît, elle doit faire aussi face à plusieurs défis, en réalité. Le premier défi, donc, c'est l'apparition de la guerre des tranchées, je l'ai évoqué, mais surtout le deuxième défi, et c'est autour de ça que l'infanterie française va se structurer, c'est comment on perce le front allemand. Et c'est la différence avec l'armée allemande qui a encore des espaces de manœuvre face aux Russes, à l'Est, en Roumanie par exemple. La France, non. La France est entièrement focalisée sur ce problème des tranchées. Elle devient une véritable infanterie de tranchées. En 1917, elle s'est adaptée complètement à ce milieu. À partir de 1916, Elle est d'une qualité, l'infanterie française est d'une qualité équivalente à celle de l'armée allemande, en termes de pertes, par exemple. Et en 1917, elle est, avec les innovations du général Pétain, elle est parfaitement adaptée à la guerre de tranchées. Bon, le problème qui se pose, bien évidemment, c'est que la guerre change. Et à partir de fin mars 1918, on renoue avec la guerre de mouvement. Et cette guerre de mouvement est une surprise pour l'infanterie française. Voilà, le commandant Laure, toujours lui, qui décrit l'intervention de la 13e division d'infanterie, constate au mois de mai, le soir du 27 mai, donc c'est l'offensive sur la 6e armée française, partout nos troupes se plaignent d'être débordées par l'infiltration des tirailleurs et des mitrailleurs ennemis. Le mot est funeste car il inspire à notre soldat une sorte de superstition et le prix de ses moyens. En vérité, le fantassin et le mitrailleur allemand manœuvrent, il faut faire comme eux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'infanterie allemande, notamment, enfin, en particulier celle des divisions d'assaut, manœuvre mieux que l'infanterie française. C'est une question d'abord technique aussi. C'est-à-dire que l'infanterie allemande n'a pas de fusil mitrailleur, mais elle a des mitrailleuses légères. Donc elle va organiser la section d'infanterie, va diviser, ce sera le combat allemand classique, en un pôle de feu, groupe de mitrailleuses et un pôle de manœuvre. Bon. Et ce pôle de feu, il est plus puissant ce que peuvent fournir les Français. Et le pôle de manœuvre, il est plus souple que les groupes de combat. C'est-à-dire qu'on a le groupe de combat français, c'est grande innovation, mais il a une particularité, c'est qu'il est lourd. Il est lourd à commander. Et c'est un problème, c'est encore un problème actuel d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas vraiment changé. Le sergent français, il a beaucoup de choses à faire. On lui fait confiance, certes, mais il a beaucoup de choses à commander, des armes très différentes. Et ce qui fait que ce groupe de combat, cette demi-section française, elle est moins souple que l'échelon de manœuvre allemand et moins puissant que l'échelon, le groupe de mitrailleuses allemand. Et puis on est face à des gens qui sont allemands, qui sont spécialisés dans ce combat d'infiltration. Et donc, ça ne se passe pas bien, et d'autant plus que, comme je l'évoquais au début, l'armée française n'a plus de mémoire de la guerre de mouvement. 4 ans après 1914, il n'y a plus personne, pratiquement, dans les rangs de l'infanterie, dans les rangs petits échelons, qui a connu cette période. Ils sont morts, ils ont été mutés, ils sont montés en grade, mais dans les compagnies d'infanterie, il n'y a plus personne, quasiment plus personne qui a connu les combats de 1914. Et donc il faut réinventer la guerre de manœuvre, il faut réinventer le simple fait de marcher, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les hommes sont habitués à se déplacer en camion, l'armée française est la plus motorisée du monde, je le rappelle, et donc il faut réinventer véritablement la manœuvre d'infanterie. On le fait à la manière française, c'est-à-dire on le fait de manière très intégrée, en combinant les chars. Les chars, ils arrivent au mois de mai 1918, la FT-17, donc c'est ce qui va redonner effectivement du tonus, une capacité offensive. Et puis une coopération, l'infanterie française va travailler dans ses capacités offensives en coopération avec l'aviation, avec les chars, avec l'artillerie, son artillerie propre. C'est un combat qui est beaucoup plus méthodique que celui des Allemands, mais qui finalement... qui s'avère au bout du compte tout à fait tout aussi efficace et tout aussi performant. Alors, je passe rapidement pour respecter les délais. Donc le combat de l'infanterie en 1918, qui se termine à la fin de la guerre, c'est l'antithèse de celui qui est pratiqué 4 ans plus tôt en réalité. En août 14, des fantassins ardents, nombreux, s'élançaient assez naïvement par bataillon compact, sans grand souci des appuis. En 1918, les unités dépassent rarement 50% de l'effectif théorique. Les hommes sont usés. En revanche, on évolue effectivement dans un cadre très intégré. Vous avez un char léger pour 200 fusiliers, 200 hommes qui portent un fusil. Vous avez 3 fois plus d'avions en 1918 par unité de combat qu'en en 1917, simplement. Il y a une grande mutation. Vous avez une aviation d'infanterie qui se met en place. Une aviation spécifique d'infanterie qui sert à faire des liaisons, qui sert à faire du renseignement, qui sert à se coordonner avec les chars, qui renseigne l'artillerie, qui commence à la fin de la guerre à faire de l'appui direct au sol. Ce ne sont pas simplement des chasseurs qui font des piquets, donc on a des plateformes volantes, des batteries volantes de mitrailleuses qui se mettent en place. Et c'est tout un ensemble complexe. Qui se met en place. Alors pour autant, le combat n'est pas moins meurtrier. Les compagnies d'infanterie de la 13e division d'infanterie perdent en moyenne chaque jour de combat autant d'hommes en septembre-octobre 1918 qu'en août 1914. Maintenant, les périodes de combat sont en revanche beaucoup plus brèves. Et les offensives de 1918 présentent un double visage, une guerre de position, puis ensuite une phase de poursuite. On ne recherche plus la percée, on recherche l'ébranlement continu de la défense adverse par un martèlement, une série de coups de poing qui ressemble un peu à la bataille de la Malmaison, mais avec moins de moyens et beaucoup plus de souplesse, et suivi à chaque fois d'un redéploiement rapide, non pas dans l'axe, mais sur les lignes de front. C'est-à-dire que voilà, vous avez l'infanterie qui se déplace latéralement et qui fait toute une série, participe à une série de petites offensives qui sont là pour marteler le front et l'ébranler. Et comment, une fois que le front est ébranlé, que les lignes de défense sont prises, il faut 15 jours pour s'emparer de la ligne Hindenburg en 1918, on passe à une phase de mouvement. C'est-à-dire qu'en septembre-octobre, la 13e division d'infanterie lance une attaque de position, progresse, il lui faut 4 jours pour progresser de 4 km, elle perd 2000 hommes, et cette phase de guerre de position est suivie d'une poursuite sur 45 km, qui dure 7 jours, où elle ne perd quasiment que 300 hommes. Pour conclure, l'évolution de l'infanterie a été soumise à des influences françaises, a été soumise à des influences contradictoires. La force des convictions d'avant-guerre, l'impossibilité de s'appuyer sur une mémoire tactique solide pour progresser ont introduit une certaine rigidité au changement. Donc à chaque fois, il a fallu s'adapter dans l'urgence. Des forces en apparence contraires ont permis toutefois de surmonter cette rigidité. L'accumulation des pertes, des matériels, ont constitué des incitations à l'innovation, mais il a fallu en réalité une série de crises. Août 14, l'apparition du front fortifié à la fin de 1914, Verdun, les mutineries, les offensives allemandes de 1918, pour déclencher véritablement les ruptures qui ont caractérisé l'évolution de l'infanterie française, réticente à l'anticipation, mais remarquable dans l'adaptation. Et en 1918, largement motorisé, possédant sa propre aviation, ses chars, ses nombreux armements légers, parfaitement intégrés dans un ensemble interarmes complet mais complexe, l'infanterie industrielle française est certainement la plus moderne du monde.